VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Soudan, les organisateurs des manifestations qui ont conduit au renversement du président Omar al-Béchir ont appelé les protestataires ce lundi à rester mobilisés devant le siège de l'armée à Khartoum. Ils ont dénoncé ce qu'ils appellent une tentative de disperser le sit-in qui rassemble des milliers de personnes sur place depuis 10 jours. Selon des témoins, l'armée a déployé une banderole sur l'un des murs de son quartier général sur laquelle est écrit, je cite, « Nos frères et sœurs, n'approchez pas, vous avez été nos invités sous notre protection, mais à présent, la loi d'urgence nous gouverne tous. » Fin de citation. Le nouveau pouvoir militaire exhorte les partis politiques à s'entendre sur une figure indépendante pour devenir Premier ministre. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les militaires appellent aussi la classe politique à s'entendre sur la composition d'un gouvernement civil réclamé par les manifestants. Ces derniers maintiennent la pression. Des milliers de Soudanais campent toujours devant le QG de l'armée à Khartoum. « Nous continuerons à organiser nos sittings jusqu'à satisfaction de nos demandes », a clamé Omar El-Degueir, l'un des chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre. Le conseil militaire de transition semble donc aller dans le sens des manifestants en demandant à des responsables de partis politiques de se mettre d'accord sur une personnalité indépendante qui deviendrait Premier ministre et sur un gouvernement civil. Mais les contestataires vont même plus loin. L'Association des professionnels soudanais appelle le futur gouvernement de transition et les forces armées à faire juger Béchir. Plus tôt, le ministère des Affaires étrangères avait appelé la communauté internationale à soutenir le conseil militaire de transition dans le but de répondre à la volonté du peuple soudanais de réaliser une transition démocratique.
La lutte contre les djihadistes au Sahel, 7 militaires tchadiens ont été tués et 15 blessés dans la nuit de dimanche à lundi dans la région du lac Tchad lors d'une attaque des djihadistes nigériens de Boko Haram qui ont perdu 63 combattants. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bermandoa. Selon l'officier, les assaillants ont attaqué les forces tchadiennes à minuit dans la localité de Bouama aux environs de Kaiga Kinjita dans la zone du lac Tchad. Il a ajouté que 63 terroristes ont été tués et que le ratissage de la zone par les forces tchadiennes continue. Le ministre tchadien de la Défense Daoud Yahya Ibrahim et le chef d'état-major des armées Taher Erda ont été dépêchés sur les lieux ce lundi pour évaluer la situation, a souligné le colonel Azem. La région du lac Tchad est le théâtre d'un regain d'attaque du groupe djihadiste nigérian. Fin mars, 23 soldats tchadiens avaient été tués dans l'attaque d'une base avancée sur la rive nord-est du lac. Violence en République centrafricaine, visite conjointe en Centrafrique d'une délégation de l'ONU et de l'Union africaine. À son arrivée à Bangui dimanche, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a appelé à une mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé début février. Il y a une fenêtre d'opportunité qu'il ne faut surtout pas laisser se refermer, car elle ne se rouvrirait peut-être pas de sitôt, a ajouté M. Lacroix. Accompagné du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smail Siergi, Jean-Pierre Lacroix est en visite dans le pays pendant 4 jours. Les deux hommes se sont rendus ce lundi à Bambari, ville du centre du pays, théâtre de nombreux combats depuis le début de l'année. Et puis, une réunion du groupe international de soutien à la Centrafrique doit avoir lieu ce mercredi à Bangui, à laquelle prendra part également le directeur Afrique de l'Union européenne, Koen Verwicke.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est contesté, alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, tient à cette révision dans un contexte sociopolitique difficile. Plusieurs partis rejettent le document qui doit être soumis aux députés à cause de son élaboration par un comité d'experts. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
La constitution du 25 février 1992 en vigueur au Mali doit être révisée. Le président Ibeka, initiateur du processus de révision, veut une démarche inclusive. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Nous avons estimé à ce niveau du parcours, il serait convenable, souhaitable et de profit avéré que nous acceptions tous de revoir notre constitution de 92 qui a fait son œuvre, qui a fait son travail, mais qui à l'épreuve du temps a eu également à en subir l'usure. C'est dans un tel contexte que nous avons, en dépit de notre douleur, penser que notre pays ne pouvait pas, ne doit pas être à l'arrêt, qu'il doit continuer sa marche.
Pour ce faire, le travail effectué par le comité d'experts de révision constitutionnelle doit être remis aux sensibilités politiques et sociales du pays. L'opposition n'est pas d'accord avec cette démarche. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
La révision constitutionnelle apparaît aux yeux de nos interlocuteurs comme la seule priorité du moment. Ceci est aux antipodes de notre ambition pour le Mali. Aller debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire. C'est pour cette raison que nous avons décliné l'invitation qui nous a été faite de participer à une cérémonie de remise de l'avant-projet de réforme constitutionnelle à Koulouba le 10 avril 2019.
Le président du parti phare Angaouli, l'ancien premier ministre, est parti répondre à l'appel du président Ibrahim Boubacar Keïta. Modibo Sidibé préconise un dialogue national refondateur.
Toucher ou conduire des réformes institutionnelles sans ce dialogue national fondateur ne nous semblait pas indiqué pour être dans une dimension de sortie de crise durable et stable pour notre pays. Parce que nous sommes conscients qu'il faut véritablement qu'il y ait un agenda du Mali et que ce soit un agenda du Mali qui soit conduit et qui soit respecté par les uns et les autres, qui donne un horizon aux Maliens, qui les rassure que nous sommes en total déphasage avec la démarche qui a été conduite par le gouvernement et que le projet qui en est sorti n'aura pas notre soutien dans un processus référendaire.
Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile du Mali.
C'est l'inclusivité qu'ils doivent observer pour que l'avant-projet de loi soit un avant-projet réellement qui prend en compte les aspirations de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Mais puisqu'il s'agit de la loi fondamentale, on doit donner beaucoup plus de temps pour que tous les acteurs de la vie civile puissent s'y pencher et enrichir cette constitution pour que pendant 100 ans encore, nous ne reviendrons plus sur cette constitution.
Malgré la divergence de points de vue, le président Ibeka trouve qu'il ne sera pas seul pour mener la révision constitutionnelle.
Nous avons entamé un dialogue qui se poursuit, dont certains de mes frères qui, pour des raisons qui leur appartiennent, n'ont pas pu devoir venir à Koulouba, qui étaient venus, qui sont encore absolument disponibles pour la poursuite de ces échanges. Dès lors, rien n'est perdu. Et moi, je n'ai pas le choix, mon devoir, c'est de coudre. Et je le ferai avec vous. Je ne serai pas seul, je ne serai pas esselé. Je serai en compagnie de vous.
Au moment où Ibeka parle de révision constitutionnelle, il y a une vive tension sociopolitique à Bamako. Beaucoup de Maliens demandent aujourd'hui la démission du Premier ministre et les enseignants sont dans l'attente de la satisfaction de leurs revendications. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Relations États-Unis-Afrique maintenant, Ivanka Trump, la fille et conseillère du président des États-Unis, Donald Trump, est en tournée en Afrique depuis hier. À son programme Deux pays du continent, c'est pour promouvoir une initiative américaine visant à faire avancer l'emploi des femmes dans les pays en développement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Arrivée hier à Addis Abeba où elle va passer deux jours, Ivanka Trump se rendra ensuite en Côte d'Ivoire pour 48 heures également. En Éthiopie, elle va visiter des projets gérés par des femmes avant de prendre part ce lundi à un sommet de la Banque mondiale. Elle a déclaré qu'investir dans les femmes est une décision intelligente concernant la politique de développement et les affaires. En Côte d'Ivoire, elle va rencontrer des femmes évoluant dans le secteur du cacao. Sur place, Ivanka Trump prendra part à une réunion sur les opportunités économiques des femmes d'Afrique de l'Ouest. Son voyage de 4 jours vise à promouvoir l'initiative américaine dotée de 50 millions de dollars visant à outiller les femmes dans les pays en développement pour faire face aux défis du sous-emploi. Un programme qui prend fin en 2025. Lancée en février dernier, l'initiative Women's Global Development and Prosperity vise à former des femmes et à les aider à obtenir des emplois bien rémunérés.
Pour terminer, l'Afrique du Nord, conflit en Libye, au moins 121 personnes ont été tuées en 10 jours d'affrontement au sud de la capitale libyenne Tripoli. Mais les positions des deux camps rivaux libyens sur le front semblent figées depuis plusieurs jours. Les combats violents qui opposent les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, à celles du GNA, le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli depuis le 4 avril, ont fait également 561 blessés, selon un nouveau bilan de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas précisé le nombre de civils parmi ses victimes. Merci de votre attention.